Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec votre esprit, je l'ajoute. Frères et sœurs, en ouvrant la Bible, souvenez-vous de Jésus-Christ. Est-ce que nous nous souvenons de Jésus? Dites-moi. Bon, qu'est-ce que vous retenez de Jésus? Il est comment? Quand on vous dit Jésus, qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez Jésus sur les routes de Galilée? Vous le voyez guérir les malades? Bon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Jésus-Christ crucifié. Bien. La deuxième chose, il est ressuscité. Christ est mort pour nos péchés, et l'apôtre dit, bien plus, il est ressuscité. Jusqu'à là, vous me suivez. Bon. Est-ce que vous avez encore une troisième image de Jésus? Il est à la droite du Père. Il est à la droite du Père, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous accuse. Il intercède pour qui? Pour nous. Qui c'est nous? Qui c'est nous? Vous dites c'est nous? Qui c'est nous? Or, il y a ce fait exceptionnel que Christ soit mort pour nos péchés, que Jésus est ressuscité des morts par la puissance de Dieu, et puis, l'Écriture le dit, vous l'avez dit, il est monté à la droite de Dieu. Mais il est monté comment? Quand on s'imagine comment les cosmonautes vont dans l'espace, tout un tas d'équipements. Eh bien, il y a un événement, frères et sœurs, qui passe souvent inaperçu. C'est l'événement où Jésus a quitté la terre pour monter à la droite de Dieu. Et j'aimerais vous proposer de lire cet événement étonnant. Oui, cet événement capital, qui est, à mon avis, un miracle oublié, et qui se trouve dans Luc, se trouve dans d'autres évangiles, mais je voudrais retenir avec vous Luc 24. C'est des échanges entre Jésus et ses apôtres. Il est ressuscité des morts, et il mange avec eux. Une fois ressuscité des morts, il mange avec eux. Il est donc bien ressuscité des morts. Et voici ce qui est écrit au verset 44. Luc 24, 44. Puis Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il rouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père vous a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors il les conduisit jusque vers Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant, bénissant Dieu et nous aussi. Frères et sœurs, Jésus est enlevé au ciel. Jésus les quitta, c'est écrit, le verbe quitter, les quitta. Il leur avait déjà dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Donc, il les quitta, il est ressuscité et il les quitte. Et les apôtres auraient pu être déçus. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce jour-là, le jour où Jésus les a quittés, ils ont adoré, virgule, ils sont trouvés une grande joie, ils sont retournés à Jérusalem, ils ont continué la louange, l'adoration, le jour où Jésus les quitte. Mes frères et sœurs, nous savons tous ce que c'est qu'un dîner d'adieu. Non ? Oui ? Certains chantent « Faut-il nous quitter sans espoir ?» Ce n'est qu'à nous revoir, mes frères. Non. Bien, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus les quitte et ils ont une grande joie. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant, ça ? Ils ont une grande joie. Et regardez comment il les quitte. Est-ce qu'il les quitte en leur donnant un petit souvenir ? En leur disant, tenez, les gars, je vous donne un petit clou de la croix. Non. Est-ce qu'il leur dit, tenez, je vous donne une épine de ma couronne. Non. Est-ce que je vous donne un petit bout de mon étoffe, de ma tunique? Non. Est-ce que je vous donne un petit morceau de bois, parce que j'étais menuisier, j'étais charpentier. Est-ce que je vous donne un petit morceau de bois de ma croix? Non. Il part et il leur laisse rien, aucun objet, montrant par là qu'il y a quelque chose d'autre, de plus important, et montrant par là que Jésus dénonce à l'avance des reliques qui feraient de nous des idolâtres, et cette idolâtrie nous conduirait loin de Dieu. Regardez, quand Moïse a élevé un serpent d'airain, vous savez qu'au bout des années, le peuple s'en servait comme un objet d'adoration et d'idolâtrie. Et Dieu a été touché. Voilà ce que Jésus nous a laissé, mes frères et sœurs. C'est pas des objets. Oui, c'est vrai. Quoi. C'est pas des objets. C'est pas des clous de ceci. C'est pas même son sanctuaire. Il nous a laissé, en réalité, quatre choses. Et je voudrais les regarder avec vous. Il y a quatre ressources, il y a quatre cadeaux. Lorsque Jésus est monté au ciel, il nous a fait quatre cadeaux. Frères et sœurs, on aurait pu dire, ces apôtres, « Oh, ça y est, il nous a quittés. Tout est fini. Fini les grandes foules, fini l'enthousiasme, fini les gens qui disaient « Hosanna ». Oui, tout est fini. Or, en réalité, l'évangile n'est pas fini. Il commençait, ce n'était qu'un début, il continuait. Regardez, Jésus dira à un jeune homme qu'il avait vu sous le figuier, un nommé Monsieur Nathanaël, « Parce que tu as cru, désormais, tu verras beaucoup d'autres choses. » Vous entendez ce verset-là? Mais ce qui est plus frappant, c'est le suivant. Jésus dit, je m'en vais. Le disciple sera comme son maître. Tout disciple accompli fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Donc, voyez-vous, quand Jésus est monté au ciel, il y avait dans son cœur cette assurance qu'il y allait y avoir des choses plus grandes, plus merveilleuses qu'allaient se produire sur la terre. Croyez-vous que c'est vrai? Or, nous sommes où? Dans le ciel ou sur la terre? Nous sommes sur la terre. Et nous pouvons nous attendre, parce que Jésus l'a dit, à voir des choses plus grandes, voyez-vous. Donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas attristés que Jésus les quitte. Ils se sont attendus, non pas à ce que l'évangile se termine, mais que l'évangile grandisse, se multiplie et se répande dans le monde entier. Et c'est pour cela que vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui. L'événement est extraordinaire. Jésus part au ciel. Habituellement, il y a une liaison entre Jésus et les anges. Quand Jésus est né, qui c'est qui a chanté? Qui c'est qui a parlé? Les anges, nous sommes d'accord? Si on continue un tout petit peu plus loin et que nous regardons le Seigneur à Gethsémané, quand il lutte et qu'il combat, qui c'est qui vient pour le fortifier? Un ange. Quand on va au tombeau, qu'est-ce que les femmes voient? Ils voient des anges. Mais quand il monte au ciel, il n'a pas besoin d'anges. Il n'a pas besoin de bras, il n'a pas besoin de mains. Il monte lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Dieu vivant et vrai. Il n'a pas besoin de tout ce qu'il avait besoin quand il était simplement sur la terre. frères et sœurs, regardez l'équipement de nos cosmonautes. Regardez tout le travail et tous les comptes qu'ils font, justement pour aller à quelques centaines de kilomètres de nous. Et Jésus, sans tout cela, par la puissance qu'il a, il s'est élevé à la droite de Dieu. Croyez-vous que c'est vrai? Et ce Jésus qui s'est élevé sans les anges, sans les bras, sans les mains et sans l'aide, il est à la droite de Dieu, mais il est aussi à Paris, il est au milieu de nous. Le même Jésus, frères et sœurs. Celui qui a dit, vous en verrez de plus grandes choses. Oui, Seigneur, je m'attends à voir encore de plus grandes choses parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et regardez, frères et sœurs, vous auriez voulu être à la résurrection de Jésus. Voir le tombeau vide. Oui. Parler avec Jésus. Oui. Manger avec Jésus. Oui. Bien, vous savez ce qu'ils ont fait, les apôtres? Après avoir vu cette résurrection. C'est écrit. Oui, après avoir vu ça, à un certain moment, l'apôtre Pierre dit à ses amis, les apôtres, « Allez les gars, c'est pas tout ça, mais allons pêcher. » À la pêche, attention. Allons à la pêche. Après la résurrection, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu, ils retournent. Ils retournent au travail quotidien, à la routine de la vie. Seulement, après l'ascension, après le moment où Jésus est monté, après, c'est écrit après, ils ne sont pas retournés à leur vie habituelle, ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés là où normalement ils n'aimeraient pas aller, ils sont retournés dans un endroit qui tue, dans un endroit qui persécute, dans un endroit qui condamne, ils sont retournés là-bas avec une grande joie parce qu'ils avaient vu non seulement Christ mort, non seulement Christ ressuscité, mais Christ enlevé à la droite de Dieu. Il est au-dessus de tout nom. Qui? Jésus. Parce qu'il a le nom qui domine tout et le Père a tout remis entre ses mains. Je vous disais tout à l'heure que quand il est monté au ciel, il nous a pas donné une épine, il nous a pas donné un ange, une plume. Quoique à Fribourg, en Allemagne, j'ai vu une relique et les gens faisaient la queue devant une relique. Savez-vous ce que c'était? C'était une plume blanche. Et c'est écrit en dessous, plume que l'ange Gabriel a perdu quand il est venu. Non mais, à mon avis, moi qui suis habitué à la campagne, je peux vous dire que, à mon avis, c'était une plume d'oie. Mais je pense que des fois, on prend les pèlerins pour des oies. Mais frère, c'est ça. Un ange qui perd une plume. Bon, allez, bref. Il nous a laissé 4 cadeaux. Le premier cadeau qu'il nous a laissé. Et quand c'est un cadeau qui nous est donné par quelqu'un qu'on aime, on le garde. On ne fait pas comme certains qui disent « Oh, ce cadeau-là, ça m'intéresse pas, je vais le donner. » Non, on le garde. Et le premier cadeau qu'il nous a laissé, mes frères et sœurs, c'est ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, je crois, chapitre 17, verset 14, quand il prie Dieu, il dit « Père, je leur ai donné ta parole. » Ta parole. Vous l'avez dans les mains, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez devant les yeux. Ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas un règlement intérieur, mais c'est sa parole. Qui est esprit et vie. Sa parole qui est capable de créer. Regardez d'ailleurs, dans l'entretien qu'il a avant de monter au ciel, il dit, regardez, dit-il, dans tous les prophètes, dans les psaumes, regardez, on parle de moi. Il leur expliquait la parole. Et pourquoi leur ouvre-t-il l'esprit? Pour qu'ils comprennent la parole. Et si vous lisez la première église, qui est l'église des Actes des Apôtres, vous verrez que le point numéro un, qui dominait, qui gouvernait l'Église, c'était la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, on l'a, dans Acte 2, 42, les premiers chrétiens persévéraient avant tout dans l'enseignement de pas n'importe qui, non pas n'importe quel farfelu qu'on trouve sur Internet et qui se donne des titres d'apôtre, dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, c'est ce que vous avez, vous et moi, c'est ce que nous avons entre nos mains. Ils persévéraient là. Et même quand il y a eu un petit problème dans l'église primitive, parce qu'il y a des gens qui disent dans l'église, il ne va pas y avoir de problème. Si, il y a eu une contestation entre les femmes. C'était une histoire de femmes. Pas de bonnes, mais de femmes. Mais dedans, il y avait aussi des hommes, entre les uns et les autres. C'était une question de veuve. Je rentre pas dans le détail. L'apôtre Pierre dit, considérez par vous-même qu'il n'est pas bien que nous laissions la parole. Ceci nous montre l'importance que les apôtres mettaient à la parole de Dieu. Elle était essentielle. Et il dit, et on va nommer des diacres, et nous continuerons à nous appliquer à quoi ? À la prière et au ministère de la parole, parole, parole. Et l'Écriture nous dit dans Acte 6, verset 7, la parole se répandait de plus en plus. C'est écrit comme ça. Et les disciples commentaient de plus en plus. Et il n'y avait jamais eu autant de chrétiens à Jérusalem qu'à ce moment-là, parce que c'était la parole qui se répandait. Frères et sœurs, vous tenez la parole de Dieu, non seulement avec vos mains, mais prenez-la dans votre cœur. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Je réalise que c'est la richesse que nous avons au nom de ta parole qui a créé le ciel et la terre. Ta parole, Seigneur, est puissante parce que la terre et le ciel passeront, mais ta parole ne passera pas. Elle est aussi puissante aujourd'hui que dans l'Église primitive. Le croyez-vous ? Bon, ça c'est le premier cadeau. Je leur ai donné ta parole. Puis avant de monter au ciel, il nous a laissé un deuxième cadeau. C'est mieux qu'une plume et c'est mieux qu'un clou, mes frères et sœurs. Il a dit ceci, regardez, vous l'avez lu avec moi au verset 46 de Luc, 47. Christ souffrirait, ressusciterait les morts le troisième jour, et qui est la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Il nous a laissé son nom. Deuxième richesse, qui est liée à la parole d'ailleurs, il nous a laissé son nom. Et il monte dans le livre des Actes des Apôtres, des dizaines et des dizaines de fois, il est parlé du nom de Jésus. Les chrétiens de l'Église primitive étaient des hommes et des femmes qui ne suivaient qu'une seule personne, la personne de Jésus. Et regardez, quand l'apôtre Pierre annonce l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres et qu'il montre la grâce de Dieu, il leur dit à la fin de son message, repentez-vous et croyez au nom de Jésus. Bien. Quand l'apôtre Pierre, dans une prison, voit un homme qui est prêt de se suicider, il dit, crois au Seigneur, es-tu? Voyez-vous, ils employaient souvent le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est le centre. Et dans Acte 3, alors je trouve ça c'est formidable, vous savez, Pierre vient d'avoir, par la grâce de Dieu, l'occasion de manifester cette puissance en guérissant un impotent. Vous connaissez Acte 3? Eh bien, Acte 3, il dit à cet homme, tu sais, on n'a ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et qu'est-ce qu'il avait? Le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, lève-toi! Et au nom de Jésus, il s'est levé! Parce que Jésus n'a pas changé. Le nom de Jésus, quelle richesse! Et écoutez la suite, ça c'est la cerise sur le gâteau. Que ce soit Pierre qui dise ça. Dans Acte 4, vous savez, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Ça a dérangé les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin, tribunal religieux de l'époque. Eh bien, savez-vous ce qu'il a dit, Pierre ? Il a dit, sachez-le tous, que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Et l'Écriture, c'est par lui que cet homme a été guéri et que vous voyez en parfaite santé. Lui, Pierre, qui au moment de la croix a renié son maître, vous connaissez ? Il affronte les hautes autorités d'Israël et il a le toupet de leur dire, vous avez crucifié. Et c'est par le nom de ce Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité, que cet homme a marché. Nous avons le même Jésus. Frères et sœurs, le nom de Jésus, c'est un don que le Seigneur, dans sa grâce, nous a donné. Et c'est un nom que quelqu'un ne supporte pas. Satan ne supporte pas. Ah, ne supporte pas qu'on prononce le nom de Jésus. Car les autorités religieuses ont dit, nous vous interdisons d'enseigner au nom de
Jésus.
Ce qui prouve bien que c'est le nom de Jésus a une puissance extraordinaire et que l'enfer tremble lorsque vous dites et vous chantez avec moi le nom de Jésus. Connaissez ce beau cantique des ailes de la foi? Vous les connaissez tous. Il y a un chant qui dit, c'est le 533, je crois, qui dit « Précieux Jésus, Jésus, je t'aime. » Vous ne connaissez pas ça? Vous avez sur l'écran, mais ça, c'est pas un miracle, ça arrive quand même. Le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Au rendez-vous de qui? Alléluia! Jésus. Encore. Suprême rançon, allez-y là, sois adoré pour tout. Une dernière fois le cœur. Jésus, béni sois-toi. Doucement, un peu plus fort. Jésus, ô merveille. Un peu plus fort. Respirez fort. Sois adoré. Sois adoré. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Toujours je chanterai. On n'est pas en phase. Je le glorifierai et je l'exalterai. Et je l'exalterai. Je le... Où ça? Je parlerai. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma... Car toujours... Jésus, seul nous qui sommes. La parole, le nom de Jésus, et le troisième cadeau, le Saint-Esprit. Oui, il est écrit, retournez à Jérusalem, et bientôt vous recevrez ce que le Père a promis. Car il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je prierai le Père, et il vous enverra le Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs, le troisième cadeau, et alors il est quand même quelque chose. Il nous a promis de nous donner le Saint-Esprit, et j'aime cette expression parce que le Saint-Esprit, il a un nom particulier dans la parole. On l'appelle, Jésus l'appelle le, avez-vous besoin de consolation? Qui peut dire, je n'ai pas besoin de consolation? Qui peut dire, j'ai besoin de consolation? Et alors, si j'ai besoin de consolation, tu es le Dieu de toute consolation. Ta parole console, et ton esprit console, et Jésus console par sa grâce et par sa puissance. Oui, c'est là le troisième cadeau. Car il dit, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera. Non pas des fantaisies, non pas des vérités plus ou moins nébuleuses, il vous enseignera et il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Moi, pas vous, parce que vous êtes jeune, mais personnellement, à mon âge, j'ai des trous de mémoire. Et chaque fois, chaque matin, je dis, Seigneur, je te remercie de me donner un petit peu de mémoire par ton Saint-Esprit qui me rappelle ta parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne rappelle pas autre chose que la parole de Dieu. Donc, ça, c'est le troisième cadeau. Et il est écrit, « Mon Père glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Et regardez, frères et sœurs, le cadeau qu'il nous a laissé, il nous a laissé le Saint-Esprit, le croyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit par rapport au monde? Il convaincra le monde. Il enseignera, il rappellera, et l'Écriture nous dit que l'Église primitive, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui? Qui a soif du Saint-Esprit? Oh, non seulement levez la main, mais dites-le avec la bouche. J'ai soif. Oh, j'ai soif, Seigneur. Car avec ton esprit, tu vas convaincre le monde. Avec le Saint-Esprit, tu vas me consoler, Seigneur. Avec le Saint-Esprit, tu vas m'enseigner. Par le Saint-Esprit, tu vas me donner de l'assurance. Car les gens étaient étonnés que Pierre et Jean parlaient. Remplis du Saint-Esprit, ils étaient étonnés de l'assurance qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et je termine par le dernier, vite fait. Le dernier cadeau qu'il nous donne. C'est son image. Regardez, quand il nous quitte, quand il quitte les hommes, qu'est-ce qu'il nous montre? Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Mes frères et sœurs, il lève ses mains. Est-ce qu'il lève ses poings ou est-ce qu'il lève ses mains? Il lève ses mains. Son dernier geste sur la terre des hommes, c'est un geste de bénédiction. Il lève ses mains. Mes frères et sœurs, ce geste de ses mains ouvertes, quand il monte vers le ciel, c'est fait pour nous frapper. Les apôtres qui l'ont vu, ils n'ont jamais oublié que lorsque Jésus est monté au ciel, il n'est pas monté avec des poings, avec une épée, mais avec des mains ouvertes. Et quand il bénit, il ouvre sa main. Ça a tellement marqué les apôtres, je vais vous le dire, tellement marqué, qu'un jour ils ont été persécutés, jetés en prison. Alors ils se sont réunis dans la prière, ils ont dit « Seigneur Jésus, vois leur menace, mais étends ta main pour qu'ils se fassent des prodiges et des miracles. » Quand ils ont fait ça, mes frères et sœurs, la terre a tremblé et ils furent tous de nouveau remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pour il y a 20 siècles ou c'est pour aujourd'hui? Aujourd'hui, Seigneur, étends ta main sur Paris, étends ta main sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos femmes, étends ta main, Seigneur, et donne-nous d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Voilà le cadeau de Dieu. Quand il bénit, il lève la main. Mais mes frères et sœurs, les apôtres, ils savent ce que c'est que les mains de Jésus. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les mains de Jésus? Elles ont pris un jour du pain, 5 pains, et des poissons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a multipliés. Un jour, il a mis ses mains sur les yeux d'un aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le. Un jour, il a mis ses mains sur un lépreux, tout couvert de lèpre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, frères et sœurs, et c'est avec des mains comme ça qu'il est monté au ciel, pour que nous puissions nous rappeler ses mains percées. Dites-moi, pourquoi ses mains percées? S'ils sont percés. Oui, pour notre salut. C'est pour nous, c'est pas pour lui. Alors ces plaies, mes frères et sœurs, ces plaies, c'est des plaies d'amour. Le Seigneur montre au ciel en nous montrant son immense amour. Je t'aime jusqu'à souffrir, je t'aime jusqu'à en mourir, je t'aime de plaie d'amour, Seigneur, puisque tu m'as tant aimé, tu as été aimé jusqu'à ce que ta chair soit déchirée, et ça ne sera toujours dans le ciel, même dans l'éternité. L'agneau de Dieu a été immolé et il a emmené les traces. Voilà pourquoi la sainte cène que nous allons prendre tout à l'heure est capitale quand nous prenons le corps et le sang du Seigneur. Il étend sa main, c'est-à-dire qu'au travers de ses mains ouvertes et au travers des marques de ses clous qui ont traversé ses mains, les bénédictions de Dieu passent, coulent. Oui, Seigneur, tu as raison. Quand on chante de la croix, la grâce coule. Et ce matin, il m'a chargé de vous dire, mes frères et sœurs, que s'il est monté le jour de l'ascension en montrant ses mains ouvertes, c'était pour qu'on voit qu'il y avait des trous et qu'on se souvienne combien il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et l'Écriture nous dit, je termine, que dans l'Écriture de l'Apocalypse, il écrit ceci. Quand Jean le voit dans le ciel, qu'est-ce qu'il voit dans ses mains? Est-ce qu'il voit dans ses mains un registre d'accusation? Non. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Dans ses mains. Acte E, Apocalypse 1. Il y a des étoiles, lui. 7 étoiles. Qui c'est que c'est 7 étoiles? C'est l'Église. Et vous et moi, au 275 avenue Dominique, qu'est-ce que nous formons ce matin? Donc vous et moi, ce matin, on est dans la main de Jésus. On est dans la main de Jésus. C'est pas faux, frères et sœurs. Ça vaut le dire, ça vaut la peine de dire « Amen, Jésus !» L'Église est dans tes mains. L'Église est persécutée, mais l'Église est dans ta main. Et nous, les petites brebis, n'a-t-il pas dit? Mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira. Et maintenant qu'il est au ciel, il a non seulement ma vie, ta vie, mais il a la vie de toute l'Église. Et ça va encore plus loin. Jean dira, il a dans sa main encore autre chose. Et Jésus lui dit, oui, ce que je tiens, c'est la clé. Les clés, au pluriel, de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire maintenant, mes mains sont des mains non seulement qui gardent, ce sont des mains qui règnent. Ainsi, Seigneur, malgré tout, tu règnes au ciel. Et bientôt, tu vas régner sur la terre. Ah, frères et sœurs, quand ils ont vu tout cela, l'Écriture nous a dit que ce jour de l'ascension où ils l'ont vu monter, quelle a été la première réaction? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une grande tape dans le dos? Non, la première réaction. Ça commence par un A. Ils ont adoré. Et si ce matin, on faisait comme eux, voulez-vous adorer? Ils adorent Jésus. Et ils adorent comment? Est-ce qu'il fallait leur dire qu'un frère prie, qu'un autre frère prie, encore un autre, il y a trop de silence, il faut que ça jette. Ils adorent avec une grande joie. Ah, mes frères et sœurs, la grande joie. Va les amener troisièmement à retourner, non pas à la pêche, comme le jour de la résurrection, mais retourner dans le monde, là où on tue, là où on persécute, pour leur dire « Jésus est ressuscité ». Et cela les amenait continuellement à avoir une vie spirituelle continuelle dans le temple. Jamais, jamais, jamais le temple de Jérusalem n'avait été rempli de chrétiens autant que là. Jamais le temple de Jérusalem n'avait entendu des louanges autant que là. Jamais Jérusalem n'avait eu autant de chrétiens que là. Eh bien, Seigneur, la ville de Paris, la Seine, le monde, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on n'est pas venu te bénir pour que tu juges le monde, on est venu pour t'adorer, pour te dire, Seigneur, étends ta main. Seigneur Jésus, le Père a remis toutes choses entre tes mains. Tout. Seigneur, fais comprendre à mes sœurs comme à mes frères et à moi-même que tout est entre tes mains. Notre vie, notre santé, nos problèmes, mais aussi le sort de l'humanité. Tout est entre tes mains. Seigneur, s'il y a eu un réveil à Jérusalem, quand tu as étendu tes mains, eh bien, permets-nous de te dire ce matin, sur Paris, étends ta main. Sur la région, étends ta main. Sur la France, étends ta main. Aux Antilles, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, sur la Martinique. Étends ta main sur la Guadeloupe. Étends tes mains sur la Guyane. Étends tes mains sur l'île de la Réunion. Étends tes mains sur l'île Maurice de l'autre côté. Étends ta main sur les îles, Seigneur. Au nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié, adoré et célébré. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.